Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le 24e épisode de la saison 9 de Vue du Banc, un épisode qui sera consacré à la Ligue des Champions, aux deux demi-finales retour de cette compétition, avec d'abord la qualification de Liverpool, vainqueur 3-2 sur la pelouse de Villarreal, et enfin, il y a quelques minutes pour nous, au moment où nous enregistrons, la qualification du Real Madrid, vainqueur 3-1 après prolongation de Manchester City. Avec moi, comme d'habitude, le trio de choc, Raphaël Cosmidis, l'homme qui écrit beaucoup d'analyses pour l'équipe.fr. Salut Raphaël.
Salut Christophe Cuffly.
Et qui fait d'autres choses pour le Red Star, etc. Et également Florent Tenuti. Salut Florent.
Salut Christophe.
Qui, il y a quelques heures maintenant, a sorti notamment une analyse sur Coparena du match de Villarreal et de la bonne première période de Villarreal face à Liverpool. Mais de tout ça, on en parlera un petit peu plus tard puisqu'on va commencer par le Real Madrid. Un scénario assez fou, Raphaël, dont il faudra dire un mot, même plus qu'un mot, parce que malgré tout, le scénario dépasse assez largement les considérations tactiques, comme sur les deux tours précédents du Real Madrid, et il y a des choses à dire sur le plan tactique, notamment l'approche de City, trop prudente sans doute, mais mine de rien, le match ne se joue pas que là-dessus, sauf si on estime que l'approche de City a empêché l'équipe d'avoir un matelas de 3, 4, 5 buts et ouvert la porte à un scénario fou, mais malgré tout, le match bascule sur Rodrigo, sur la capacité à marquer 2 buts en 1 minute, etc.
L'aspect City et l'approche City, je pense, restera quand même un gros pan de l'analyse parce qu'elle se répète après le match retour au Wanda où il y avait déjà eu un peu ce côté-là, mais on pourra développer ça après. Mais oui, le fait majeur de ce match et le fait majeur de la compétition du Real Madrid, ça reste le momentum qui leur a permis de se qualifier 3 fois de suite. Et ça, c'est de façon en plus particulièrement impressionnante. On en parlait en préparant l'émission, avec ce but donc à la 90e, cette égalisation de Rodrigo, et puis derrière le temps additionnel qui est annoncé, de 6 minutes, où tout le monde se dit bah, pourquoi 6 minutes, il n'y a pas eu tant d'arrêt de jeu que ça, et puis il n'y a même pas besoin de 6 minutes, il n'y a besoin que d'une minute pour que le but s'enchaîne, et ça c'est vraiment symbolique de ce qu'a proposé ce Real cette saison, et ce qui est très différent du Real de Zidane, de 2016, 2017, 2018, qui n'avait pas forcément des énormes temps forts, qui avait des buts clutch aussi, mais c'était pas en série comme ça de 1, 2, 3 buts en quelques minutes. C'était une équipe qui malgré ses errements tactiques et son déséquilibre parfois, était quand même beaucoup plus fort dans les deux surfaces, surtout dans sa surface défensive. Là, en l'occurrence, c'est un Real qui ne maîtrise pas autant, qui n'est pas aussi souverain, mais qui choisit ses moments, en tout cas, arrive à être performant et efficace dans les moments où il est à la porte de la mort. Et ça, c'est impressionnant quand ça arrive sur 3 tours de suite, contre en plus la Juve, Chelsea, la Juve, oui, non, c'était ça, oui.
Non, Paris.
Qui Paris, bah oui, Paris, je confonds les équipes. Contre Paris, Chelsea, puis Manchester City, qui sont quand même trois équipes très très bien dotées.
Florent, au moment où ce temps fort arrive, donc consécutif au premier des deux buts de Rodrigo, est-ce que ça sort de nulle part? Est-ce que le Real a un moment de domination? Parce que donc, la capacité à enchaîner après un but, elle est folle. Maintenant, est-ce que si tu prends ce match-là et les autres précédemment, est-ce que ces buts-là sont la logique, la conséquence d'une certaine domination, ou est-ce que ce sont des buts qui tombent là et qui tombent au bon moment, mais qui n'ont pas forcément une naissance sur le plan tactique, sur le plan de la domination?
Alors, il faudrait que je me rappelle exactement des autres matchs. Mais j'en suis pas forcément sûr. C'est vrai que le premier but lance pas mal de choses. Ce qui est sûr par contre, c'est que si on prend la deuxième mi-temps et et l'entrée en jeu de certains joueurs, il y a quand même côté Ancelotti voilà, j'ai fait exprès la deuxième fois quand même, hein, je précise. Mais un coaching assez gagnant et positif, c'est-à-dire il y a de très bonnes entrées de Rodrigo, de Camavinga, quand en face City perd beaucoup, je pense, avec Kyle Walker qui sort et qui gérait plutôt bien Vinicius jusque-là. Je pense que Vinicius a rarement eu un tel client en face, même s'il y a 2-3 situations où Walker s'impose un petit peu virilement et que Vinicius aurait pu obtenir des choses. Mais tout ça pour dire que t'as quand même une fin de partie. Quand t'as Grealish qui remplace Jesus, t'as Fernandinho qui remplace Mahrez, ça c'est le genre de signe en fait que moi, de mon point de vue de simple observateur profane, je vois là-dedans, je vois des signes très négatifs envoyés par l'entraîneur. Et c'est vrai que sur la fin de match, voilà, l'action vient d'un centre, City est à ce moment-là en bloc bas, et même si dans les minutes qui suivent le but de Mahrez, t'as Grealish qui a ses deux balles pour faire le break et permettre à City de plier la rencontre à ce moment-là, ces deux ratés-là font que tu te dis ils sont encore en vie, ils vont peut-être en avoir une, quoi. Et finalement, c'est ce qui se passe. C'est que très souvent dans ces moments-là, l'adversaire finit toujours par avoir une occasion pour pouvoir revenir. Et la force du Real, c'est de souvent avoir mis ces occasions-là dans les dernières minutes et dans les matchs précédents. Puisque c'était un petit peu ça le cas quand lors du quart de finale face à Chelsea, quand Modric envoie son extérieur du droit pour Rodrigo. C'est un petit peu le même délire. Il n'y a pas forcément de surdomination, mais Chelsea a pas plié la rencontre. Alors que je crois qu'ils avaient eu des occasions aussi qu'ils ont loupées, je me trompe peut-être, mais tout ça pour dire que voilà, à partir du moment où tu rates une balle de break et que tu rates l'occasion de clouer le cercueil du Real, tu sais qu'à un moment donné ils vont au moins avoir une occasion. Et après là, ce qui est très fort, c'est que dès qu'ils en ont une, ils la mettent au fond dans ces moments-là.
Ça me rappelle un petit peu certains matchs de tennis où au final un joueur qui a un break d'avance, quand il rate la balle de double break, parfois il a plus tendance à perdre son service derrière, là où quand il a juste son simple break d'avance et qu'il gère son affaire, il n'y a pas ce côté occasion manquée. Raphaël,
t'es en train de dire, Christophe, que le Real a affronté trois fois de suite Richard Gasquet?
Ouais, peut-être. C'est vrai que Richard Gasquet, quand il menait 2-7 à 0 plus break, il y a notamment des matchs comme ça contre Andy Murray, et qu'il perdait son break d'avance, la cote de la victoire de l'adversaire passait à 1,80. On était sur un swing où on sentait vraiment que ça allait s'inverser. Par contre, moi, pour le coup, vraiment, autant sur le premier but du Real, j'ai annoncé à la personne qui regardait le match à côté de moi que, en gros, je fixais un cut à 2 minutes sur le fait qu'il y a un deuxième but. Du coup, quand la personne m'a dit, ah, t'as vu, ça fait un peu moins de 2 minutes, j'ai fait bon, je n'ai pas le cœur à rire car je suis un petit peu énervé de ce scénario. D'un autre côté, quand Grealish rate son occasion, moi je voyais pas le Real revenir. Je sentais que le Real était quand même un peu en train de perdre pied. Là où il y avait eu quand même pas mal d'occasions avant, je me disais qu'en gros, si Vinicius les avait toutes ratées, notamment, enfin, il n'y avait pas que lui, mais c'est que visiblement, ce n'était pas le jour du Real, alors qu'en fait,
si City a pas ce réflexe naturel de reculer sur les 5-6 dernières avec les changements dont parlait Flo, je vois pas comment le Real se crée une occasion. Parce qu'ils avaient pas de... Ils arrivaient pas à mettre du rythme quand ils essayaient de casser le pressing de City. Ils arrivaient à casser son pressing, mais après, il y avait qu'une seule solution, c'était Vinicius qui prend de la vitesse contre un joueur sur le côté.
Et il a fallu il y avait Walker.
Et il a fallu que City se replie dans sa surface pour que Real se procure une occasion. Avec le super ballon de Camavinga. Mais jusqu'à ce que City recule, il y avait vraiment pas d'idée pour le Real. Et depuis 20-25 minutes, tu sentais même plus d'énergie dans le stade non plus. Et puis le bruit que ça a fait sur le premier but du Real, là, c'était monumental. Et rien que ça, je pense que ça a secoué un peu City.
Et puis, pour rejoindre ce que tu disais, Christophe, sur le côté, c'est peut-être pas le jour du Real. C'est vrai qu'à 0-0, la première occasion du match du Real Madrid, c'est la tête de Benzema. En tout début de partie, qui part un petit peu dans les airs parce qu'il n'arrive pas à bien la prendre. Alors que le centre, il me semble que c'est de Carvajal, est très très bon. Et c'est vrai que cette première tête-là, tu te dis, tiens, normalement, il les a toutes mis, ses premières occasions quasiment dans les matchs précédents. Et le voir rater ça alors qu'il est vraiment seul entre Laporte et Diaz, qui s'engueule pas mal d'ailleurs après, il me semble, sur le coup, tu te dis, tiens, peut-être que ça sera pas une occasion, un but cette fois. Et. C'est vrai que Benzema a 2-3 autres situations, et là ce qui est très fort, c'est que ils ont pas mis la première, mais ils ont mis la dernière, quoi. Et il y a ce raté de Vinicius sur le coup d'envoi de la deuxième mi-temps aussi.
Ouais, le système out of time out, c'était un peu comme un truc de NBA ce qu'ils avaient fait côté du Real, et ça a super bien marché. Et c'est vrai que tu te dis que là, bah, si celui-là il rentre pas, derrière ils ont pas énormément d'occases, tu sentais pas une supériorité de la part de Benzema sur ce match-là. Et il a fallu qu'il y ait ce but-là. Même si les changements du Real ont apporté, vous l'avez dit, mais il n'y avait pas forcément les mêmes temps forts ou les mêmes fragilités qu'on avait vues de la part de Chelsea ou du PSG sur des séquences un peu plus longues, je trouvais.
Ouais, surtout de Chelsea, non, pas forcément. Mais je suis assez d'accord. Florent, allez, si on revient sur le début de match, je sais que Raphaël était très énervé, donc c'est pour ça que je le lance pas tout de suite, sinon il va tout dire. Très énervé de l'approche de City, mais c'était pas le seul, hein, j'ai vu que pas mal d'analystes sur Twitter faisait un peu le même constat sur le côté un peu comme contre l'Atlético, on a la balle mais on n'en fait rien finalement, alors que ce qui nous a permis d'aller jusque là c'est d'avoir la balle avec un but finalement et d'aller dans le camp adverse pour essayer d'attaquer. T'essayes d'attaquer, tu la perds, mais t'es en position d'attaque, tu la récupères bien au contre-pressing, etc. Donc tu t'installes dans le camp adverse. Là finalement c'était un peu la possession défensive latérale, mais qui en plus, vu les circuits de transmission, quand tu l'as perdu, tu pouvais en plus être vulnérable sur la transition derrière. Donc, tu te créais pas grand chose. Et en plus, je trouve que t'étais d'autant plus vulnérable, alors que, bah, j'imagine que le but, c'était quand même de conserver un petit peu le score. Donc, j'ai pas bien compris l'approche de Guardiola, surtout vu l'échec de cette philosophie, échec relatif, hein, mais dans la physionomie du score, enfin, du match sur le retour face à l'Atlético.
Ouais, à la mi-temps, t'es à 6 tirs partout. Et en plus, le fait de, tu parles de possession, possession un peu défensive, on a la balle pour l'avoir. Finalement, à la pause, c'est assez équilibré en termes de possession. On doit être à 51-49 ou 50-50, je crois, pour... Enfin, 50-50 pour... 51-49 pour City, quoi. Mais c'est vrai que sur ce début de match, t'as aussi, de part et d'autre, en tout cas côté City, un seul tir dans la surface. Je récupère les chiffres. Mais je retiens quand même que à l'aller... une fois passé l'entame de match assez catastrophique du Real, il y a eu quand même une défense basse et placée du Real qui était plutôt bonne, ou en tout cas qui n'était pas poussée dans ses retranchements par City, à l'exception d'une chose, c'était ces fameux centres rentrants venant de la gauche ou de la droite qui pouvaient vraiment apporter du danger. Et c'est vrai que sur la première mi-temps, c'est un petit peu le Real corrige un petit peu ça, parce qu'il y a l'arrivée, il y a le retour de Casemiro qui permet de densifier un petit peu la surface sur ces séquences-là. D'ailleurs, il en renvoie un à un moment donné en première période, un centre qui partait assez bien et qui venait de la droite, il me semble. Donc c'est vrai que on n'a pas revu les circuits qu'on a l'habitude de voir côté City, avec je prends un exemple tout simple, mais on écarte vers l'ailier qui va fixer pendant qu'il y a un autre joueur qui fait l'appel dans le demi-espace, projection dans la surface et tentative de centre en retrait. C'est vrai qu'il y a eu assez peu de pénétration comme ça, mais je retiens aussi que quand même côté Real, ces zones-là étaient plutôt bien défendues, les demi-espaces, à l'aller, et ils l'ont refait là, même si après, si on doit parler de la première mi-temps, on peut aussi revenir sur Casemiro et sa première demi-heure, je crois que c'est en 33 minutes, qui peut prendre deux jaunes, en tout cas il doit en prendre un sur De Bruyne et au moins un sur Foden. Après il aurait pas défendu de la même manière sans doute sur Foden, mais voilà, ouais, ça ce sont un petit peu les clés de la première mi-temps côté City qui attaque. Et côté Real, je retiens surtout de très bonnes séquences pour sortir le ballon, mais c'est vrai que c'est Raph qui l'évoquait tout à l'heure, une fois que la balle était sortie et qu'il y avait un peu de profondeur, et ben c'était un petit peu Vinicius face à Kyle Walker, et le duel tournait plutôt à l'avantage de l'anglais pendant toute cette période là
Raphaël, ton avis sur cette première période par rapport à ce qu'a dit Florent, qu'est-ce que tu peux ajouter, appuyer, contredire, compléter?
Non, mais je suis d'accord avec Flo. Je sais pas si l'approche de City m'a plus énervé en première ou en deuxième. Je pense que c'est en deuxième, parce que je relisais les messages qu'on s'échangeait sur la conversation, et à 22h13, donc on était à la 13e minute de la deuxième période, donc vers la 58-59e, j'ai posté « Ce serait bien que City attaque quand même ». Et je trouvais qu'il y avait cet aspect conservation sans destination, qui est un truc assez récurrent quand même chez Guardiola sur les matchs retour, quand City a ses équipes ont l'avantage à l'aller. Il y avait un peu ce côté-là contre l'Atlético, et en deuxième mi-temps, ça les avait fait souffrir, parce que finalement, ils n'avaient pas d'intention avec le ballon, ce qui est paradoxal, parce qu'il te dit souvent que la possession pour la possession, ça n'a aucun intérêt.
Après, il dit aussi qu'il ne fait pas de faute tactique. Hein, donc,
oui, voilà.
C'est le genre de faire des fautes tactiques, donc il faut ça. Toujours...
Et ils vantent toujours les entraîneurs qui battent 6-0 en disant que ce sont des super coachs et des super équipes qu'il faut respecter. Mais ça m'a un peu... Ça m'a pas étonné, mais ça m'a déçu, parce que c'est à chaque fois pareil, en fait. Et tu vois, on dit souvent, c'est les entraîneurs, on dit qu'ils sont offensifs, qu'ils sont défensifs, etc. Et je ne sais plus de qui est la phrase, donc je pourrais pas donner l'auteur, elle n'est pas de moi, mais qui disait, il n'y a pas d'entraîneur offensif ou défensif, il y a des entraîneurs dirigés par la peur et des entraîneurs dirigés par le courage, en gros. Et, alors les entraîneurs peuvent être dirigés par plusieurs choses selon les moments, mais je trouve que Guardiola, sur les dernières années de Ligue des Champions, a plusieurs fois été dirigé dans ses choix de plan de jeu par la peur. Il y a le match contre Lyon, dont on se souvient, où il s'était adapté comme si c'était l'armada du siècle, alors qu'il y avait quand même des joueurs très très moyens en face. Il me semble que Marçal était titulaire dans la défense de Lyon. à ce moment-là, donc c'est quand même pas fou. Il y a le match contre l'Atlético, le match retour, où il y va pour tenir le ballon sans s'ouvrir parce qu'il a peur de l'Atlético, et finalement, bah, en n'ayant aucune intention, City perd le ballon et perd le fil du match. Et là, c'est un peu pareil. Alors, ils concèdent pas énormément, mais ils vont pas attaquer un adversaire qui pourrait, je pense, largement dominer. Et le format Ligue des Champions, sur sa manière d'aborder les matchs, a des influences parfois très très fortes qu'il a pas du tout en championnat. Bon, en championnat, comme souvent City est en avance, ou en tout cas rivalise, il n'y a pas du tout cette même crainte. Et là, je trouve qu'on a retrouvé cette crainte, et du coup, du football qui ressemble pas au football de City, où tu sens que des joueurs portent le ballon sans avoir d'idée sur vers où le porter, pourquoi le porter, est-ce qu'on élimine, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on s'engage vers dans la profondeur. Et ça, c'est un truc qui, je sais pas, qui m'embête un peu. Il y avait aussi des matchs comme ça avec le Bayern à l'époque, parfois, de temps en temps. Et je sais pas si j'imagine qu'il l'analyse lui-même et que son staff l'analyse lui-même, mais c'est assez fréquent ces dernières années, et je pense pas que ce soit de la suranalyse ou surcomplexification comme on disait un moment, ou de la suradaptation, mais tout simplement de la crainte parfois exagérée quand tu penses à la supériorité collective de City sur la plupart des équipes européennes, dont ce Real-là qui collectivement n'a toujours pas sorti un match incroyable, hein, mais après il y a des moments qui maîtrisent mieux que personne.
Ah oui, moi j'assume totalement le fait de dire que ce Real n'est pas une très bonne équipe, et que ça peut être l'un des vainqueurs de Ligue des Champions les plus faibles collectivement depuis très longtemps. Pour moi, c'est vraiment 100%. Alors avec la dramaturgie, et quand c'est le Real qui fait ça, c'est tout de suite plus classe que quand c'est Chelsea, mais avec un aspect de Chelsea de Di Matteo, je sais que je vais en faire hurler certains, mais mais j'assume totalement ce côté. Alors j'ai pas osé poster Steven Bradbury, le vainqueur des JO en short track en 2000, parce que tout le monde se cassait la figure devant lui. J'ai pas osé le poster sur Twitter, parce que je pense que j'allais prendre beaucoup de mentions pendant l'enregistrement, et me faire beaucoup insulter. N'empêche que c'est à la fois, bah, bravo quand même quelque part d'avoir su surcompenser ça, et aussi, alors peut-être pas honte, mais mine de rien, Guardiola et d'autres équipes avant, Tuchel, Pochettino, t'as perdu contre une équipe qui était plus faible que toi, donc aussi, remets-toi en question. C'est-à-dire, bravo d'avoir fait une machine compétitive avec toutes tes années de travail derrière pour avoir un système qui fonctionne tout seul quasiment. Là, maintenant, encore une fois, je reste persuadé que City aurait dû largement gagner l'aller et du coup, se mettre à l'abri au retour, et encore une fois, en attaquant au retour, je pense qu'il
Après,
va pas le match. Mais c'est, voilà, c'est les choses qui arrivent.
Je sais que vous y tenez moins que moi, mais je trouve qu'Ederson est vraiment problématique dans ces matchs-là. Pour moi, il a aucun impact défensif sur les performances de City en Ligue des Champions. Là, le but qu'il prend de Rodrigo, puis il doit couper la trajectoire. Et je trouve que souvent en Ligue des Champions, il concède des buts qu'il doit pas concéder et qui font tourner des matchs, même parfois en première ligue, qui font tourner des matchs qui doivent pas tourner. J'ai aucun souvenir d'un arrêt d'Ederson qui change un match.
Mais je vais te citer aussi l'aller, où l'aller, on était dans une config où City avait un peu plus le ballon, et où sur les sorties de balles, Ederson était capable de mettre City, de mettre son équipe dans la merde tout seul, en tentant des passes qui n'avaient pas forcément lieu d'être ou qui étaient très risquées. Il en donne une à je sais plus qui, je crois que c'est Modric
mais,
qui
l'intercepte. Mais ça c'est plus rare, tu vois, ça sort un peu de son,
oui, oui.
Son schéma, mais le truc de
ouais,
pas décisif, je le vois très souvent chez lui, je trouve.
Non, c'est vrai. Mais à l'aller, voilà, c'était plus sur du jeu au pied où City était dans une situation de maîtrise, et puis ce joueur-là fait une erreur technique qui n'a pas lieu d'être à ce niveau de compétition, et qui finalement va faire baisser un petit peu... Enfin voilà, c'est logique, ça fait un petit peu baisser le niveau de confiance et de morale de tout le monde, en fait, dès qu'il y a ce genre d'erreur technique. Et c'est vrai que côté City, et c'est là qu'il y a une différence entre ce match retour, je trouve, et l'aller, c'est qu'à l'aller, il y a plusieurs moments comme ça où City, il y a des joueurs comme ça qui font ces petites erreurs techniques. Je pense à Ederson et à Stones, principalement sur des sorties de balles. On peut aussi évoquer les joueurs qui ratent des actions devant. Mahrez qui rate la balle de 3-0 ou 2-1, je sais plus exactement.
3-0.
En première mi-temps. 3-1, je me rappelle plus. Exactement. Mais en première mi-temps, Foden, tu sais, qui rate son contrôle. Tu vois, ces petites actions-là qui, à chaque fois, ça fait peut-être un peu gamberger d'un côté et ça fait gagner en confiance l'adversaire. Et c'est peut-être aussi ce qui se passe ce soir sur la fin de match. Quand Grealish rate ses deux occasions et qu'il y a des dans les dernières minutes.
Après pour moi techniquement il les rate pas, tu vois, le Courtois est méga décisif sur
oui.
La deuxième occasion de
non,
Grealish.
Non mais je parle du rapport de force entre les deux. Quand t'as une action comme ça, forcément d'un côté tu vas gagner en confiance, tu vas dire on est encore en vie, et de l'autre côté tu vas dire putain on a raté un truc. Et bon après tous les joueurs ne réagissent pas de la même façon à ce genre de situation. Il y a des mecs qui perdent aucun influx nerveux, qui restent très focus. Mais il y en a d'autres, tu vois, ça peut être plus fluctuant. Et peut-être que côté Real, justement, ce genre de petit fait de match, etc., t'as peut-être des joueurs qui ont tous accès d'expérience, peut-être que dans l'environnement du club, ces joueurs-là sont imperméables à l'aspect négatif de ces petits événements dans un match. Quand de l'autre côté, par contre, dès qu'il y a un truc positif qui leur arrive, ça les booste. Et peut-être que c'est ça qui différencie un petit peu les deux équipes ce soir.
Pour moi, tu vois, ce côté imperméable émotionnellement, pour moi, il dépend beaucoup de tes 2-3 meilleurs joueurs. Et notamment ton gardien. Et un mec comme Courtois sur le parcours du Real, là, il est immense, Courtois. Il sauve un nombre de situations. Et dans des moments ultra difficiles, là, il sort une tête de Foden pendant la prolongation. Derrière, Fernandinho est pas loin de marquer, mais elle est tellement bien déviée qu'elle est dure à reprendre.
Il y a la lucarne de Cancelo, hein. Aussi, qui fait une frappe qui partait pleine lucarne.
Et il y avait la frappe d'Azpilicueta aussi.
Azpilicueta, c'est ça.
Qui est à peu près la même, hein. Enfin, c'est pas, c'est le même type de frappe.
Et Ederson, il te sauve jamais.
Bah, il a sauvé la prolongue, là. Parce que, il y a une frappe, je crois que c'est de Benzema, angle fermé à la 94.
Rodrigo, je crois encore.
Rodrigo encore.
Ouais. D'accord. Mais je crois que c'est Rodrigo encore.
Après, c'est pas la du siècle. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis justement dit, comme Raphaël, ah, tiens, pour une fois, il en sauve une. Du coup, il t'offre la possibilité de perdre en prolongation. parce que bon, c'était quand même un petit peu écrit. Mais je suis d'accord que les arrêts marquants de Ederson, d'ailleurs, alors ça peut paraître anecdotique, mais le fait qu'il rende la balle juste après le but encaissé, ça, j'avoue que je ne comprends pas.
Et tu vois, pour moi,
le long dégagement, au lieu de jouer court et il a pas de pressing, pourquoi tu fais ça? Tu prends un but 5 secondes après.
Ça rappelle un petit peu ce qui est arrivé au PSG, ça.
Oui.
Pas forcément sur le match face au Real, mais la fameuse remontada où Trapp balançait et rendait les ballons un petit peu loin de ses buts.
Pour moi, l'écart entre son jeu au pied et son aspect défensif est trop grand, Ederson. Alisson m'énerve beaucoup avec son jeu au pied, mais Alisson, il sauve 2-3 parcours de Liverpool avec des arrêts fous. Et Ederson, franchement, c'est vraiment problématique. Pour moi, il est même pas, je pense pas qu'il soit top 12 ou top 15 européen sur l'aspect défensif, en fait. Il y a plein de gardiens, dans mon souvenir et dans l'image que je vois, qui sont plus importants que lui. Je pense que Maignan est plus décisif que lui, par exemple.
Bah, c'est un gardien qui...
Et ça, c'est quand même un souci à ce niveau de Ligue des Champions. Avant, on parlait des centraux de City, qui n'ont pas été grandioses, hein. Mais à un moment, il faut quand même un gardien, il faut Courtois. Et Courtois, il est pas un incroyable jeu au pied, mais ça fait 2-3 saisons que défensivement, il est gigantesque. C'était pareil pour Oblak sur les gros parcours de l'Atlético.
Bah là, surtout, ce que tu dis qui est intéressant, c'est que, effectivement, les centraux de City sont sur pas mal de buts, hein. Là, Diaz fait péno, Laporte fait péno sur l'aller, Laporte est aussi critiquable sur l'un des buts encaissés à l'aller, mais les défenseurs centraux du Real sont aussi impliqués sur des buts encaissés, ou en tout cas sur des situations concédées, et n'empêche que Courtois s'en sauve quelques-unes. Donc, je veux dire, c'est pas comme si t'avais eu une charnière incroyable du côté du Real, comme c'était à l'époque, quand t'avais Ramos, Pepe, Ramos, Varane, etc. Là, honnêtement, Militao, c'est pas mal, hein, mais il y a parfois des problèmes sur la sortie de balle. Florent, une question que je me posais, Raphaël disait, ce qu'on essaye d'expliquer, en tout cas de comprendre ce qui est un aspect inexplicable, hein, même si encore une fois, moi j'en veux quand même à Guardiola de pas avoir joué le jeu, parce que, encore une fois, je trouve l'adversaire assez faible et je pense qu'il a créé les conditions de sa propre déroute. Mais Raphaël parlait des top joueurs qui créent un état d'esprit. Est-ce que c'est une suggestion que j'ai, mais je peux ne pas être d'accord. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir un système très cadré fait que du coup, tu réagis beaucoup moins bien aux imprévus que le Real qui finalement a quand même l'habitude de dépendre beaucoup de ses individualités, qui s'adapte de match en match, qui a parfois des scénarios favorables, défavorables, un aspect ping-pong, etc. Là où City finalement est à peu près toujours dans les mêmes configurations et rencontre finalement assez peu ce côté mince, on est face à un adversaire qui va nous presser, on est en situation défavorable, on vient d'encaisser le but, qu'est-ce qu'on fait? Parce que même si tu mènes 2-0 face à Watford, que tu prends le 2-1, a priori, tu sais que techniquement, tu vas pas être mis en danger. C'est cette question-là que je me pose. En gros, le système qui, en gros, annihilerait un petit peu les individualités, les mettrait dans une position de faiblesse quand le match devient un peu irrationnel.
Bah peut-être, oui. De toute façon, par le passé, c'est vrai que les équipes de Guardiola ont un petit peu souffert de ça, au-delà de City. C'est arrivé dans d'autres cas en Ligue des Champions. Ce qu'on peut évoquer là-dessus, et surtout en comparant par rapport au Real Madrid, c'est vrai que très souvent, quand on peut lire certaines choses sur Bernardo Silva, sur Cancelo, sur Foden parfois aussi, ou sur Sterling, ces joueurs qui rentrent dans le cadre de City, dont on attend, on sait ce qu'ils vont faire, mais c'est vrai que dans ces moments-là, tu te dis que ce sont des joueurs qui, a priori, normalement, ont la qualité quand même pour réussir à sortir du cadre quand ça va mal et prendre plus d'initiatives sur le plan individuel. Et ça rejoint peut-être ce que tu dis, si j'ai bien compris.
J'ai fait trop de mots. Du coup, je vais interroger Raphaël aussi là-dessus. Est-ce que tu penses que les systèmes très, très, voilà, très fixés, où on a toujours la possession, on va toujours presser dans le camp adverse, etc., où on maîtrise pas toutes les phases du jeu. Je sais que c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur, le fait de dire que Liverpool, par exemple, est beaucoup plus complexe City, fait que bah, quand tu sors un petit peu de ta zone de confort, qui est vraiment une grosse zone et avec un gros confort, bah, t'as un peu plus de mal à t'adapter, quoi.
Ouais, je sais pas si c'est beaucoup plus complet, mais on parlera de Villarreal Liverpool après, et je pense qu'on a vu la différence entre les deux équipes sur la façon de gérer ces moments-là et d'y réagir. Et en prolongation, il n'y a aucun moment où on sent City capable de revenir. Ça, c'est quand même un énorme problème, parce que quand il y a ce 2-1 et qu'il y a 6 minutes de prolongation de temps additionnel, pardon, je pense que Christophe aussi, toi, tu as craint le troisième but pendant le temps additionnel.
Ah bah au début j'y pensais pas, mais quand j'ai vu la minute du deuxième, je me suis dit qu'effectivement le troisième était loin d'être improbable.
Et puis il y a la fin de ce temps additionnel, City peut aller voir son staff, etc., peut souffler un peu, et tu dis bon, heureusement qu'il y a cette pause là, parce que si, bon, imaginons on est dans un sport où la prolongation s'enchaîne sans qu'il y ait de passage chez les staffs, juste ça change de côté et ça enchaîne, je pense qu'il y aurait eu 3, 4, 5, 1 peut-être dans les 10-12 minutes. Donc tu dis bon, ils vont aller voir les staffs, etc., ça va aller mieux, ça va aider un peu. Et puis en fait, ils reviennent et ils sont pas mieux du tout.
Tu prends le péno.
Et voilà, c'est ça, tu prends le péno. Et alors, vous parliez des 2-3 joueurs que j'évoquais qui peuvent un peu être le cap émotionnel de l'équipe. Le souci, c'est que tu perds sur blessure et sur changement, parce que je pense qu'il était fatigué, ton leader défensif et ton leader offensif. Tu finis le match sans Kyle Walker et sans Kevin De Bruyne, qui sont tes deux patrons. Kyle Walker sur la ligne défensive parce qu'il va gérer toute la profondeur et même parfois traverser la moitié de terrain pour aller couvrir à gauche, et Kevin De Bruyne parce que c'est le gars qui est capable le plus d'improviser dans cette équipe, par une frappe de loin, par un centre improbable, par un coup de pied arrêté bien frappé. Les autres sont quand même plus scolaires, donc il y a cet aspect là aussi dans le match qui est que tu peux pas vraiment reprocher à Guardiola, parce qu'il mène 1-0 à la 73e. D'ailleurs, c'est juste après le changement où Gundogan rentre que ça fait le but pour City, et tu te dis bon bah c'est bon, ça va aller. Pareil, le changement en Fernandinho Mahrez, même s'il est un peu étonnant, mais pourquoi pas. Et puis derrière, finalement, bah, il se retrouve avec un 11 qui est encore moins offensif que celui avec lequel il avait démarré, et qui, même avec d'autres idées de jeu, avec l'idée d'attaquer, avait moins d'armes. Et ça, c'est un autre souci aussi. Même s'il y a les occasions pour City pour se qualifier, hein, faut pas non plus trop rationaliser le match et dire le Real s'est qualifié logiquement, tout a été écrit dans ce qui a été proposé, c'est normal que ça passe. Mais il y a des circonstances qui aggravent un peu les problèmes de City sur cette rencontre-là. Et puis après, il y a les entrées du côté du Real, on l'a mentionné un peu. Mais Rodrigo et Camavinga sont aussi une des grandes histoires de ce parcours européen du Real Madrid. Parce que, alors Rodrigo, on va parler de ses buts, mais Camavinga fait une entrée, faudrait que je regarde ses stats individuelles, mais il fait une entrée tonitruante. Au moment, je me rappelle d'un retour défensif sur Bernardo dans la surface.
Ouais, il en a fait plusieurs, hein, des retours comme ça.
Où tu te dis, il va y avoir péno parce qu'il est lancé, il a des petits appuis, etc., ça va être très dur à défendre. Et Camavinga, il défend debout, il récupère le ballon, il le gratte, il sort le Real de son camp. Et tu fais, ah ok, on est sur un niveau là de performance. C'est marrant, sur WhoScored, sa note est pas très... Bah tu vois, il a 4 tacles quand même. Il entre à la 74e minute, 4 tacles, 2 dégagements. Ouais. J'ai pas ces autres stats là, ces stats de passe.
5 duels gagnés sur 8 disputés, 2 fautes commises.
Ouais, puis il a touché.
On n'aura pas les stats, mais il y a aussi le terrain gagné.
Ouais,
au pied. Parce que lui, dès que le terrain s'ouvre devant lui, bah, il hésitait pas, il prenait, il allait gagner des mètres et il allait mettre le ballon le plus loin possible.
Je te donne une stat, Flo. En 74 minutes, Modric a touché 43 ballons. Et sur les 45 que Camavinga a fait, il touche 37 ballons. Donc il a touché quasiment autant de ballons que Modric en 30 minutes de moins. Et il a touché des ballons bas, il a touché des ballons hauts, il a cassé des lignes, il s'est projeté, il a gratté des ballons, il a défendu haut à la perte. Enfin, il a fait vraiment une entrée totale, et il a grandement participé au match du Real. Autant que Rodrigo. Rodrigo se trouve dans le dernier tiers, mais Camavinga te permet d'y être aussi.
Sachant qu'il y avait... je sais pas si Flo t'allais reprendre la parole. Sachant qu'il y avait en plus la perte d'un milieu, tu devais battre plus de terrain puisque Camavinga rentre donc Asensio, qui donc du coup est plus offensif, et il y a sorti de Modric et de Casemiro, l'homme au collier d'immunité permanent.
Donc, et t'as Militao qui est sur une jambe pendant au moins 30 minutes pendant que Camavinga est là, et d'ailleurs Camavinga était souvent assez bas pour aider la sortie de balle dans ces moments-là.
Mais c'est
Et
vrai qu'il y avait
vraiment,
un
il a
aspect
été.
box-to-box essentiel parce que là, du coup, tu pouvais pas faire des passes latérales à un mec qui à côté de toi allait le faire, quoi. Il y avait vraiment, si tu fais pas ça, en gros, t'as vite le risque d'être coupé en deux, quoi. Parce qu'en plus, Kroos avait été remplacé par Rodrigo. Donc, globalement, tu perds tes trois milieux habituels et tu n'as plus que Camavinga dans cette position-là. Et au final,
T'as Valverde aussi
oui, il y a
qui est
Valverde qui
remplacé.
se recentre, effectivement. Mais malgré tout, c'est Camavinga qui fait le plus de prises d'initiative là-dessus. Ce qui refait un peu changer notre avis, je pense, sur Camavinga, même si on peut estimer que c'est un contexte particulier de rentrer en cours de match. Alors c'est hyper bien de le changer, mais c'est pas débuter d'entrée, etc., installer le rapport de force, sur, en gros, les gens de sa catégorie d'âge, quoi. On avait des débats sur lui et
Ouais.
Bellingham, par exemple, où
Et
Bellingham avait
Gravenberch.
nettement pris le dessus. Là, c'est en train de re-switcher sur les deux, même si Bellingham, voilà, il y a l'euro, il y a des choses, et puis limite. Pas obligé de faire de tout une compétition, mais c'est vrai que Camavinga, qui avait eu des moments difficiles, là, d'un coup, la remontée en flèche, elle est assez colossale, quoi.
Ouais, non, mais en plus, c'est répété, c'est à chaque fois qu'il entre, il est bon. Contre des adversaires compliqués. Et ça, c'est beaucoup plus que Marco Asensio, qui est entré en jeu, je le rappelle. Ouais,
Aucun
je donne cette
souvenir de
information.
lui.
Il gratte un ballon haut à un moment.
Ah, c'est
À un
bien.
moment, il fait un centre nul 2 minutes après son entrée. Ça, c'était le petit moment
Après,
Marco Asensio.
on lui est attribué une passe décisive sur le
Le
deuxième but de
penalty.
Rodrigo.
Ah, c'est lui qui
Ah
centre?
oui, non, en fait, il y a
Ouais.
le centre et il la dévie légèrement de la
Voilà,
tête, ce qui
d'accord.
permet de
Oui.
passer au-dessus de la tête de la porte.
C'est
Ah,
vrai.
ça, c'est vraiment une passe décisive d'arnaqueur, ça, quand même.
Ouais. Après,
Écoute, elle est là, elle est là.
et peut-être que s'il fait pas ça, la porte là. Après, la vraie passe d'arnaqueur, c'est quand tu décales un mec sur coup franc qui met une mine et où on te la met parce que t'as fait rouler le ballon à 5 cm.
On pense à tous les mecs qui ont fait la passe à Ronald Koeman sur des coups
C'est
francs
ça.
lointains.
Mais voilà, quand même dire quelques mots du Real. Florent, quels sont les autres joueurs? Déjà sur la configuration d'entrée de match, qu'est-ce qui a pu te frapper,
Attends,
hormis
ils sont allés
Zouk-Nout?
presser, il faut en parler quand même de ça. Ils sont allés agresser City, ils ont
C'est
tenté.
ça. Parce que les
Oui, ils
50%
ont.
de possession, ça naît, alors évidemment, de City qui sait pas toujours quoi faire quand il faut la récupérer en bloc médian ou bas, mais aussi le Real qui allait la chercher et qui savait quoi faire à peu près du ballon, quoi.
Le Real allait la chercher en effet. Ils ont bien su la sortir aussi, ce qui n'était pas toujours le cas. Faut se rappeler du match du huitième de finale aller face au PSG, où c'était le PSG les avait bouffés et les avait empêchés totalement de sortir la balle. Là, ça s'est beaucoup mieux passé. Il y a eu plus de variété, j'ai trouvé, justement dans la manière de sortir le ballon. Modric a souvent quitté sa zone habituelle, qui est d'axe droit, il est allé se placer quasiment en haut à gauche, derrière Vinicius, pour occuper cette zone-là. Et c'est un petit peu, voilà, le Real insistait de ce côté-là du terrain pour remonter le ballon. Enfin, ça a toujours été leur côté fort.
Alors que pourtant, vu les pieds des centraux, c'était pas forcément facile théoriquement de
Oui,
sortir. Quand tu vois le début de match de Militao.
C'était compliqué pour Militao en effet, mais félicitations pour le Real d'avoir réussi à sortir des ballons malgré Militao, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué dès lors que le ballon est dans ses pieds. Non, voilà, il y a eu plus de pressing, plus d'activité. Et moi, je retiens ce que je disais tout à l'heure, c'est que en phase défense placée, ils ont très très peu subi.
Mais
D'ailleurs, le
est-ce
nombre.
qu'ils ont été attaqués? C'est ça,
Mais le truc, c'est que je retiens sur les deux matchs, c'est que sur ces séquences-là, City a attaqué pendant 10-15 minutes sur le premier match, ils mettent 2 buts, avec notamment le premier qui est un but d'école avec ce ballon, ce centre rentrant, et puis De Bruyne qui vient plonger entre, du coup, c'est entre Militao et Carvajal, je crois, pour mettre la tête et ouvrir le score. Et ce type d'action-là, on les a pas énormément vus après, mais je trouve que le Real défendait bien avec. Défendait bien les demi-espaces de part et d'autre du terrain. C'était jamais le même joueur qui revenait aider. Alors parfois t'avais Rodrigo qui revenait, parfois c'était Modric qui réintégrait cette ligne, parfois c'était Valverde. Je me remémore les quelques séquences que j'avais pu revoir, mais Rodrigo aussi l'a fait. Mais le truc, c'est que s'ils n'ont pas été attaqués, peut-être que l'adversaire estimait que ah, ils défendent assez bien, on va pas les attaquer. Mais c'est vrai que pour revenir à ces histoires de centre rentrant et plongeant, moi, il y a une autre question que je me pose dans les dernières minutes, même si je pense que l'aspect mental a aussi pris le dessus sur le reste, c'est que City, à la 110e, 111e, je sais plus de quand date exactement la tête de Foden et le Fernandinho qui est pas loin de la reprendre, t'as typiquement ce fameux centre qui apporte le danger,
C'est le
et sur
seul,
les
hein.
dernières minutes de la partie, on ne revoit plus du tout cette action.
Bah, est-ce que tu te souviens d'un seul autre centre de City pendant les 30 dernières minutes?
Ben, je suis allé voir justement 106e minute, donc c'est Cancelo, c'était l'action qui arrive sur la tête de Foden. Et ensuite les suivantes, on a Grealish à la 119e qui essaie de rentrer dans la surface et qui se fait contrer, j'ai l'impression, dans la surface de réparation. Ensuite il y a, alors c'est pas ensuite, mais c'est avant Gundogan, mais c'est sur un coup de pied arrêté qui envoie à la 111e. Et puis ensuite il y a un corner de Gundogan à la 120e. Mais sinon il n'y a pas d'autres séquences
C'est
de ce
fou.
genre-là dans les
Moi,
dernières minutes.
il y a une séquence qui m'a marqué, c'est deux fois où Sterling et Grealish sont à l'angle gauche de la surface. Ils ont une position où ils peuvent centrer, il y a du monde dans
Ouais.
la boîte, et ils veulent
Et ils
éliminer
insistent
leur
le duel.
adversaire pour
Ouais.
centrer en retrait, et en gros faire le centre en retrait classique de City. Et
Absolument.
c'est vrai qu'on a vu un peu l'incapacité à improviser dans ces moments-là, je trouve. Alors que, bon, bah, t'es dans une situation difficile, mets un ballon, et c'est pareil, le but qu'ils mettent, le but de Mahrez, c'est une des seules séquences où t'as 5 ou 6 joueurs du City qui s'engagent verticalement. C'est une des
Oui.
rares... Et c'est pour ça que Bernardo a
Avec un
plusieurs
décalage
solutions.
créé très tôt sur
Ouais.
le
Et
terrain.
c'est pour ça que Bernardo a plusieurs solutions et qu'il peut choisir Mahrez en cachant sa passe, qui par contre met une finition magnifique, Mahrez. Mais c'est une des rares séquences où on a revu un peu ce que City avait proposé à l'aller, en mettant beaucoup de joueurs sur la dernière ligne, en ayant vraiment des situations où les choix de passe étaient multiples. Et avant ça, on a vu beaucoup de séquences où Bernardo portait le ballon, où De Bruyne portait le ballon, où il lançait un mec en profondeur, mais autour d'eux, il n'y avait pas forcément beaucoup de soutien. C'était et le ça m'a vraiment rappelé le match au Wanda où City avait le ballon mais on voulait surtout pas prendre le risque d'être ouvert à la perte et à force de refuser finalement de s'ouvrir bah tu te crées pas d'occasion et puis tu laisses l'adversaire rentrer dans le match et tu fais l'inverse de ce pourquoi City est dominateur d'habitude et ça c'est quand même un truc sur lequel enfin, tu peux avoir d'énormes regrets et des remords quand tu sais ce dont t'es capable, notamment grâce à ce que fait ton coach.
Et puis surtout,
C'est
pour
bizarre.
revenir sur la question des centres, dans les dernières minutes, je crois que Laporte reste devant.
Oui.
Et puis tu n'utilises pas du tout ça. Moi, j'ai même souvenir d'une séquence où t'as Diaz qui a la balle à 40-45 mètres du but. Et puis non, finalement, on va pas essayer de la mettre dans la boîte. On va continuer à faire tourner. Alors que dans la surface, on a quand même un Real qui a perdu Militao, qui certes s'est renforcé et fini avec une ligne de 5
Ouais.
avec Vallejo. Mais bon, dans l'axe, il me semble que c'est Carvajal
Et t'as plus
et
Casemiro. T'as plus Casemiro qui est
t'as plus
sorti.
Casemiro, t'as Carvajal, Nacho et Vallejo, je crois, qui terminent dans les
Et
dernières minutes.
t'as plus Benzema qui aurait été un bon joueur de tête aussi pour défendre. T'as pas mal de
Donc,
joueurs absents.
ouais, dans ces dernières minutes, il y a des choses que j'ai pas forcément compris.
Après,
Surtout que, voilà, City avait mis le Real en danger sur ces séquences-là avant.
le 11 du Real pour terminer est lunaire.
Oui. Bah,
Tu regardes les joueurs sur le terrain, je crois que c'est Elton, notre ami Elton qui l'a mis, c'est un 11 de compétition d'été, là, le ICC à Miami, les matchs de pré-saison, parce que t'as Vallejo sur le terrain, t'as Ceballos, t'as Vasquez, t'as Asensio, t'as Rodrigo, t'as Camavinga, t'as Nacho qui a démarré le match, enfin c'est lunaire.
oui, c'est comme les compos du PSG sur le trophée des champions, où il y a toujours des mecs qui ensuite ne sont pas au club 2 semaines après. Messieurs, très rapidement, alors peut-être que ça n'intéresse que moi, mais j'ai envie de vous poser cette question. Si vous deviez classer les trois adversaires du Real par niveau de regret pour chacun, lequel était vraiment au-dessus du Real et peut s'en mordre les doigts, lequel était un peu plus proche, etc. Est-ce que, avec le recul, alors ça ne légitimera pas l'élimination du PSG, hein, mais est-ce que des trois, le PSG était le plus proche? Est-ce que c'était le PSG le plus dominateur? Moi, j'ai vraiment l'impression que Chelsea est peut-être l'équipe qui est montée le plus haut, que City est l'équipe qui aurait pu arracher tout dès le match aller, mais que le PSG, finalement, c'est l'élimination presque la plus incompréhensible des trois, parce que je vois quasiment aucun temps fort jusque-là, là où les autres équipes, sur l'aller à Chelsea et sur le retour face à City, je vois des vrais moments où l'adversaire est quand même vraiment embêté par le Real, là où le PSG, j'ai quasiment aucun souvenir du Real
Après
qui fait quoi que ce soit si on lui offre pas le match, quoi.
le PSG vit quand même 30 minutes très difficiles sur le retour.
Mais c'est encore une fois, hein, c'est des souvenirs comme ça et des trucs un peu diffus. Hein. Donc vous avez tout à fait le loisir de me contredire. Mais si jamais, voilà, il fallait un petit peu classer les trois matchs sur tout ça, est-ce
Moi
que
je
vous
pense
avez
que
une
c'est
idée?
en vrai ouais je pense je suis d'accord avec toi, je pense que c'est Chelsea qui a le plus maîtrisé le Real où il y a eu des temps forts incroyables mais j'ai l'impression que City est l'équipe qui aurait pu le vivre le plus tranquillement l'aller-retour. PSG je trouve qu'au match retour ils ont vraiment été secoués plus longtemps que là City a été secoué, c'est-à-dire que City a pas beaucoup attaqué mais ils ont été secoués Je sais pas combien de temps ils ont été secoués, 5 minutes en première, 5 en deuxième.
Bah, le truc c'est que il me semble que City, le Real sur le temps réglementaire des deux matchs n'est jamais qualifié
Ouais.
sur les deux rencontres.
Après, j'ai vu qu'en termes de XG, par contre, c'est assez équivalent, mais
En termes de XG, le Real est bien devant, mais bon, il y a
Bah c'est
penalty
qui,
de
oui,
Benzema.
son
Sur
penalty
le
c'est équivalent.
retour, oui, sur le retour, ouais, mais sur l'ensemble, sur les retours, ils sont quasiment à égalité, je crois.
Ah peut-être, ouais, j'ai pas vu sur l'ensemble.
Je sais pas, pour moi, le Real PSG, il y a vraiment un trou du PSG très très long à partir du moment où le Real marque un but. Et là, le trou, il existe parce qu'il y a la prolongation, mais t'as vraiment 2 minutes de trou qui t'emmène en prolongue. Donc je sais pas trop. Mais après, de toute façon, les trois doubles confrontations sont irrationnelles. Hein. Donc c'est rare que ça s'enchaîne sur la même année pour une équipe comme ça.
Un dernier petit mot à ajouter là-dessus, Florent, ou tu veux qu'on passe à l'autre match?
Non, on peut passer à l'autre match.
Ouais.
Vivement la finale.
Allez, passons à l'autre match, où bon, on va faire un petit peu plus court, parce que le scénario a fait que voilà, Liverpool se qualifie finalement tranquillement, mais Florent, je vais te lancer le premier. Cette... Genre, je sais pas si je vais donner les compos et les buts de Real City, je ne pense
Non.
pas, je vais donner quand même vite fait. Mahrez est marqué pour City, Rodrigo x2 et Benzema pour le Real. Les compos, je ne les donne pas, on a déjà fait assez long sur ce match, vous les retrouverez en cherchant ou en essayant de remettre tous les noms qu'on a donnés dans l'ordre. Sur Villarreal-Liverpool, c'était Boulaïdia et Coquelin qui a marqué pour Villarreal en menant 2-0, donc du coup jusqu'à l'heure de jeu où Fabinho, Diaz et Mané ont marqué pour Liverpool. Allez, vite fait les compos. Rulli dans les buts, Foyt, Albiol, Pau Torres et Stupinian derrière, Lo Celso, Parejo, Capou, Coquelin au milieu, Moreno et Dia devant, et côté Liverpool, Alisson dans les buts, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson derrière, Keita, Fabinho, Thiago au milieu et Mohamed Salah, Diogo Jota et Sadio Mané devant. Donc Florent, match, c'est un peu un stéréotype, hein, mais il faut de temps en temps utiliser le poncif. Un match de demi-temps avec vraiment la première où Villarreal marque ses deux buts et ça tombe pas de nulle part, loin de là. Et la seconde où Liverpool met ses trois buts et là aussi c'est
Ça
pas
vient
non
pas de nulle
plus
part.
ça tombe pas non plus de nulle part, mais c'est aussi lié à l'incapacité de Villarreal à maintenir ce qui avait été bien fait en première période.
Ouais, c'est ça. Et sur ce qui a été bien fait en première période, on avait dit de toute façon après le match aller que Villarreal avait été tellement surclassé que déjà on croyait assez peu à l'exploit, évidemment. Christophe, t'as échappé à un marathon quand même. Mais en fait, Villarreal devait absolument sortir de son plan de l'aller. Et du Bayern aussi, parce qu'en fait son plan face au Bayern c'était bloc bas et sortie de balle, mais on va pas les chercher. Et contre le Bayern, ils avaient réussi à déjouer le pressing. Face à Liverpool à l'aller, c'était bloc bas et sortie de balle, sauf que le bloc bas était toujours plutôt solide. Ils ont craqué qu'assez tard finalement et sur un centre dévié au départ par Estupiñán, mais les sorties de balle c'était absolument impossible face à Liverpool. Donc la réflexion pour Villarreal c'était comment est-ce qu'on fait pour pas être dans nos 30 mètres et pas subir pour pas subir le contre-pressing évidemment de Liverpool. Donc il y a eu deux choses pour ça. La première, c'est d'aller presser très haut. Ça, c'est ce qu'ils ont fait au retour et ce qu'ils ont quand même plutôt bien fait sur la première mi-temps. On note pour ça les 66%, je crois, de passes réussies des Reds à la pause. Et la deuxième chose, c'était comment on fait pour aller dans le camp adverse quand on a la balle. Bah, généralement, on utilise la route la plus rapide, c'est-à-dire le jeu direct vers les attaquants, où là, Dia et Moreno ont quand même mieux gêné la défense et tenu la balle que Danjuma et Chukwueze, je crois,
Chukwueze.
qui étaient titulaires à l'aller. Donc ça a aidé. Sur les deuxièmes ballons, le milieu de Villarreal a pris la mesure et pris le dessus sur le milieu de Liverpool, qui n'était pas le milieu le plus gratteur du monde avec Keita et Thiago. Donc il y a eu ce deuxième point-là, et moi je retiens aussi le troisième point, c'est que une fois qu'ils étaient dans les 30 derniers mètres, il y a eu beaucoup de projections, beaucoup de mouvements pour attaquer cette ligne défensive de Liverpool, notamment des projections de Coquelin et de Capoue qui ont été très très bons dans ce domaine-là, et inspirés en plus, avec les dernières passes qui visaient aussi les deuxièmes poteaux pour sauter la charnière Van Dijk-Konaté. Donc vraiment un plan de jeu qui est décrit dans mon analyse sur Coparena, mais qui était très bien fait pour poser des problèmes à Liverpool. Ils ont tenu 45 minutes et ils ont au moins prouvé à tous ceux qui disaient que Villarreal n'avait absolument rien à foutre à ce niveau de compétition et que le Bayern nous avait privé d'une grande demi-finale, que ils avaient tout à fait leur place, je pense, et ça restera une belle une belle aventure, une belle épopée pour cette équipe qui peut sortir la tête très haute.
Raphaël, en tant que fervent partisan du Liverpool Football Club, comment est-ce que tu as vécu cette première période? Je t'ai vu tweeter notamment sur l'absence de milieu gratteur, de combattant du milieu Brexit, je crois, comme tu l'appelais.
Ouais, ça vient pas de moi, mais c'était le nom que les supporters de Liverpool avaient donné au trio à l'époque, Henderson, Wijnaldum, Milner, en gros, qui était un trio énergique, on va dire, pas forcément dans la finesse, mais plus dans la bagarre. Et c'est vrai que quand tu vois la première période que Villarreal a imposé à Liverpool, bah oui, Thiago et Naby Keita sur les deuxièmes ballons face à Capou, Coquelin qui venait intérieur, Lo Celso qui se bagarrait avec Parejo, et puis les attaquants qui venaient de tailler de temps en temps, c'était une vraie difficulté. Flo a parlé des projections, etc. sur une projection de Capou que Villarreal marque son deuxième but. Et ça a été un souci aussi. Ils ont attaqué les latéraux, c'est vrai, ils l'ont très bien fait avec Alexander-Arnold et Robertson qui ont été surpris à chaque fois au deuxième poteau sur les buts inscrits. Et puis il y a eu énormément d'intensité avec une grande prise de risque quand même de la part de Villarreal, c'est qu'ils jouaient très 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 haut.
C'était dû en contre un derrière.
Et ils défendaient en avançant sur tous les ballons en première période. Et il y a eu un moment où je me suis dit, ah, Liverpool a compris, il y a un ballon qui va sur le côté. Ça revient vers Fabinho, je sais plus, et il y a un joueur de Liverpool qui tente en une touche, limite au hasard en fait, mais qui se dit bah ballon qui vient du côté, je me la mets une touche profondeur et en fait il y a 40 mètres à aller chercher.
Et c'est Salah qui élimine, qui prend le dessus sur Estupiñán, qui le met dans le vent et qui part. C'est l'action de c'est Diogo Jota après à la fin, ça revient dans l'axe. Ah, et Jota bute sur Rulli qui sort.
Ne me parle pas de ce jeune homme. Parce qu'on va en parler après de pourquoi le match a été mieux pour Liverpool aussi, et ça a beaucoup à voir avec le fait qu'il est sorti et surtout qui l'a remplacé. Et y avait quand même cette idée là pour Liverpool, s'ils arrivent à avoir un peu de temps à l'intérieur, même en une touche, de se dire bah voilà, on va trouver une zone, même pas forcément un joueur, mais sur une zone on peut trouver un joueur qui va aller plus vite que l'adversaire, notamment dans la zone de Foyce qui aurait pu être mis plus en difficulté en première période. Et puis il y a ce changement à la mi-temps avec Mané qui passe dans l'axe et Luis Diaz qui passe côté gauche. Et là, ça a apporté un joueur qui est en 2022 plus à même que Mané de provoquer un contre un. Et puis surtout, ça a mis Mané dans l'axe. Et Mané est beaucoup plus complet que Jota quand il faut jouer contre une défense comme ça. Et Liverpool avec un peu plus de calme, un peu plus de sérénité. Et de toute façon, Villarreal pouvait pas continuer sur ce rythme-là. Je pense qu'ils ont quand même un peu surjoué en première période. Surjoué dans le sens où ils étaient au max de leur capacité. Ils ont été récompensés, mais repartir après la pause au même niveau d'intensité, c'est très très difficile. Même quand tu mènes 2-0, et d'ailleurs le plan a apparemment un peu changé, je pense qu'ils ont essayé d'attirer Liverpool et de pourquoi pas profiter des espaces parce qu'ils pouvaient pas mettre autant d'intensité, et c'est là que Liverpool a été très bon dans la gestion de la deuxième période où ils ont quasiment rien concédé. Villarreal a un seul tir en deuxième, Liverpool en a 13, 12, quelque chose comme ça, 13 je crois.
De 40 XG à 0,06 sur la deuxième mi-temps.
Et c'est pour ça que je dis que pour moi Liverpool est un peu plus complet qu'un club comme City, c'est qu'ils peuvent avoir ce temps faible là. Mais ils savent comment réagir à ce temps faible-là. Ils ont des armes très variées pour y réagir. Peut-être plus variées que City. Pas plus fournies, mais plus variées. Et quand tu vois que sur le banc, finalement, il aurait pu faire entrer Henderson et Milner. Hein. Puis, comme ça a été 2-0 à la mi-temps et que tu t'es dit, OK, on va peut-être plus avoir le ballon, à être moins pressé. Je vais continuer avec Thiago et Naby Keita. Et ils ont été plus à l'aise en deuxième. Et quand ils ont trouvé du temps, après, c'était dur pour Villarreal de tenir face à cette équipe-là, mais énorme première période de Villarreal. Je sais pas si c'est mieux que ce qu'ils avaient fait contre le Bayern, mais
ça se vaut. C'est pas du tout le même style, du tout dans le même style, mais parce que première mi-temps face au Bayern, c'était surtout les sorties de balles où ils avaient été très très bons.
Après, ils étaient vraiment à la limite là quand même, parce qu'il y a plusieurs fois où Raúl Albiol et compagnie font des fautes tactiques qui sont des fautes que tu fais parce que tu sais que si t'es éliminé, le joueur va seul au but quasiment.
C'était vraiment
la limite,
hein,
sur beaucoup de contacts 2-0, et tout. Oui, t'avais pas le choix. Mais c'était presque gasperinesque dans l'idée de défendre comme ça, très haut, individuel. On prend des risques et tout. Et ça peut marcher, comme ça ne peut ne pas marcher. Je crois que vous vous rappelez du 5-0 que l'Atalanta avait pris contre Liverpool en phase de poule il y a un an ou deux.
Ouais, ils avaient pris pareil contre City. Hein. Il y a un match où ils prennent 6-1, il semble.
Ouais. Mais là, Villarreal avait plus de poids et plus de puissance à l'intérieur. Donc ça a tenu. Mais en deuxième, c'était trop dur.
Et à noter que Liverpool sur la première période rend quand même assez facilement les ballons aussi.
Ouais.
Et j'imagine qu'il y a un aspect aussi mental parce que Villarreal ne presse aussi, jamais.
Hein. Il y a le stade aussi.
Oui, il y a le stade aussi. Mais je veux dire, je sais pas si Klopp s'attendait forcément à ce que Villarreal presse tant parce que Villarreal ne presse jamais. En tout cas, jamais dans ces proportions-là. Et du coup, alors, même si les joueurs peuvent s'adapter, j'ai l'impression que ça a un peu paniqué, ça rendait la balle assez facilement aussi. Et d'ailleurs, tous les joueurs l'ont dit en après-match, la pause, Klopp leur a dit, écoutez les gars, calmez-vous, quoi, faites des passes, vous subissez quand même assez régulièrement des pressings, ça va, quoi, ok, les mecs, voilà, ça peut être chiant, etc. Maintenant, vous en avez vu d'autres aussi, et vous étiez capable de relancer propre face à Tottenham, de Pochettino ou autre, ouais. Donc bon.
Après, sur l'intensité, ils se sont fait éclater en première aussi. Hein. Sur l'énergie, sur...
Oui, je pense qu'ils n'étaient pas prêts aussi psychologiquement.
À chaque fois. Et, en termes d'énergie. Je pense vraiment que heureusement que c'est la mi-temps. Une première période de foot ne dure pas 60 minutes parce qu'il peut y avoir 3-4-0 pour Villarreal. Et la mi-temps arrive au bon moment pour Liverpool pouvoir repartir derrière avec plus de temps et un Villarreal qui était fatigué. Le banc, par exemple, de Villarreal permettait pas à Emery de repartir sur une deuxième période du même niveau. Ça, c'était quand même un souci. Il fait rentrer des joueurs. Alors, il y a des joueurs que j'aime bien. Hein. Trigueros, j'aime bien, mais c'est pas du tout le même registre que Capou ou que Coquelin, par exemple, qui sont des joueurs.
Puis c'est pas Luis Diaz.
Et c'est pas Luis Diaz. Et Luis Diaz a fait une entrée motivée.
On va en parler juste après. Juste dire quand même un mot. Florent, ce que t'as dit sur Moreno et sur la présence de deux milieux offensifs ailiers devant sur le match aller fait quand même regretter de pas avoir vu. Alors là, en plus, Moreno rechute et est obligé de sortir, mais le match, a priori, il y avait 2-2, ils étaient déjà en train d'être pliés. J'aurais, moi, bien aimé voir 180 minutes de Gérard Moreno. Liverpool, je pense, passe dans tous les cas. Mais là, il y a quand même ce côté où tu te dis que Villarreal aurait pu ressortir des ballons. Enfin, en tout cas, on a vraiment vu le avec et sans. Sans un vrai attaquant de conservation qui en plus peut se déplacer, qui peut proposer, parce que là tu pouvais t'appuyer sur quelqu'un alors qu'avant tu pouvais t'appuyer sur personne, quoi, à l'aller. C'est ça le truc qui, en plus, Villarreal n'a pas eu sa meilleure configuration sur 180 minutes, quoi.
Oui, c'est sûr. Après, comme tu le dis, ça aurait pas non plus renversé.
Oui, non, c'est juste, c'est toujours un peu dommage pas avoir la meilleure version d'une équipe qui déjà part avec un désavantage, quoi. C'est toujours un peu dommage.
Et pour enchaîner sur Luis Diaz, c'est vrai que Raph évoquait à la fois le repositionnement de Mané et son placement à lui sur l'aile gauche. Luis Diaz, là où il a été très intéressant, c'est que face au pressing de Villarreal, c'était vraiment un point d'entrée excentré, et donc excentré, donc assez finalement assez facile à trouver pour les joueurs de Liverpool, alors qu'en première mi-temps, Mané se recentrait beaucoup, rentrait beaucoup intérieur, et je pense qu'il a facilité beaucoup la défense de Foyt en se déplaçant de cette manière-là. Luis Diaz, lui, est très souvent resté collé ligne de touche, et du coup était plus facile à toucher. Et une fois qu'il avait la balle, il allait fixer, il gagnait des mètres. Et ne serait-ce que faire ses 20-30 mètres balle au pied, c'est tout le bloc de Liverpool qui pouvait remonter, s'installer dans le camp adverse. Et à partir du moment où il est installé, on revient sur la configuration du match aller, le contre-pressing, etc. Et là où Mané aussi, je l'ai trouvé intéressant, Raphaël, c'est que dans l'axe, il a aussi fait beaucoup de retours pour venir aider ses milieux, aller couper des lignes de passe vers Parejo, ou alors que quand Villarreal essayait de la garder un petit peu, il a permis à Liv d'avoir un peu plus d'intensité aussi dans sa moitié de terrain lorsqu'il fallait aller gratter des ballons pour repartir de l'avant. Et donc sur ce point-là aussi, il a marqué pas mal de points. Mané, qui d'ailleurs à la pause, je parlais des 66% de passes réussies, je crois qu'il a 39% de passes réussies sur la première mi-temps. Et il est assez catastrophique. Et il y a une vraie différence entre les deux périodes aussi pour lui.
Ouais, mais en plus, il défend plus intelligemment que Jota. Parce que Jota a tendance à couper les lignes de passe un peu bêtement. Il en coupe une, mais il en ouvre une autre immense. Et puis derrière, il se retrouve trop loin pour défendre. Alors, il a moins de repères que Mané, qui est là depuis des années aussi. Puis il y a eu l'entrée de Luis Diaz, donc j'ai ses stats. Il entre à la 45e, 4 dribbles réussis, 4 tirs.
Moi, j'ai eu une stat beaucoup plus
impactante,
marquante, vas-y. Pour ce
un but.
Alors, c'est en yard, mais un yard, c'est quasiment un mètre. Et puis, l'important, c'est les rapports de force. La distance balle au pied vers le but, il fait 91 yards, sachant que, bon, hormis Alexander-Arnold qui a 157, le meilleur Liverpoolien, c'est Naby Keita avec 97. Donc, Luis Diaz, en 45 minutes, en fait 91. Il est troisième de son équipe. Et pour situer, Mané est à 61, Salah est à 44. Et Diogo Jota est à 0.
Oui, mais
bon, après, c'est pas forcément de la même position, mais oui.
Ce qui est quand même assez fort.
Bravo à lui. Anderson aussi est également à 0. Mais tout ça pour dire que voilà, il a gagné quasiment 100 mètres à lui tout seul en partant d'une position plus avancée qu'un Alexander Arnold, par exemple.
Non, mais en plus, il était face à Juan Foyth, qui théoriquement un central, qui joue latéral à Villarreal, et du coup il l'a mis dans la machine à laver. C'était un mismatch terrible pour lui. C'était, je sais pas, c'était Jamorent contre la version 2022 de Klay Thompson, tu vois. Donc il a énormément fait souffrir, et je pense que Luis Diaz est incapable de jouer à moins de 100%. Ce qui en fait un très bon joueur pour l'envoyer en cours de match, parce qu'il s'en fiche de à quel moment il entre pour te faire subir d'atroces événements, et il a fait une entrée assez incroyable qui a changé le match, et qui en plus il est capable de partir dans la profondeur aussi, donc il est très difficile à défendre, parce que si tu le laisses recevoir dans les pieds, il va prendre de la vitesse, il va te provoquer, si tu le colles, il va partir dans ton dos et il va pouvoir aller jusqu'au but. C'est vraiment une version de Mané il y a 4-5 ans. Et en termes de profilage pour recruter des joueurs, ils se sont pas trompés du tout. Le seul doute, le seul bémol, on avait parlé, c'est est-ce que son échantillon de buts passe dé est pas un peu trop réservé à une seule saison? Parce qu'avant, il avait connu aucune saison à Porto où il avait été aussi prolifique. Bah, il est déjà, alors j'ai pas compté, j'ai pas ses stats depuis qu'il est arrivé, mais à chaque match, j'ai l'impression qu'il est décisif quasiment. Ou en tout cas, qui fait beaucoup de mal. Et ça, c'est une entrée qui a fait beaucoup de bien à Liverpool dans un match où Van Dijk a un peu plus souffert que d'habitude, par exemple, j'ai trouvé. Donc c'est pas passé loin pour Liverpool, mais la deuxième mi-temps est quand même très rassurante.
Du coup, projection sur la finale, Raphaël. Moi, je suis persuadé que le Real n'a pas fait tout ça pour perdre ouais, la finale.
C'est ma grande inquiétude.
Mais footballistiquement, mais en même temps, je suis dans une boucle spatio-temporelle, voilà, où je vais toujours dire que le Real, encore une fois, est la moins bonne équipe des deux sur le terrain. Et là, je suis pas sûr que la bataille des individualités, tu puisses tout gagner. Enfin là, par exemple, Benzema de la tête, c'est énorme. Maintenant, face à Konaté, Van Dijk, tu vas pas forcément beaucoup rigoler, quoi.
Donc, Modric à l'intérieur aussi. Je serais curieux de voir quel va être le milieu choisi par Klopp, tu vois, contre le milieu du Real. Est-ce qu'il va repartir sur du Fabinho, Naby,
le Brexit,
Thiago, le Brexit. Ou est-ce que ça va mettre du Henderson, Henderson ou Milner pour
Henderson, Thiago.
Ouais, bien ouais, Henderson, sans Thiago, doute. Henderson, Thiago, Henderson qui va agresser Modric ou Kroos pendant tout le match. Je vois plus un truc comme ça. Mais oui, le côté narration te fait dire que le Real peut pas faire cette épopée pour perdre en finale. Et c'est très très malheureux, hein, parce que moi je vais être très malheureux. En plus, le match va être à Paris, donc ça va me donner envie de sortir voir ça dans un bar où il y aura plein de supporters de Liverpool. Mais je sais pas. Et en même temps, la défense du Real me semble tellement faible par moment que j'ai du mal à croire qu'une ligne Diaz Mané Salah peut pas les faire souffrir.
Ah bah le Diaz Carvajal, j'ai déjà lancé un clapping. Après il y a déjà eu des trucs qu'on a annoncé catastrophiques pour le Real, et le Real s'en est sorti, hein, mais ouf.
Même le Salah Ferland, hein. J'aime bien Ferland en tant que joueur de foot, mais Salah Ferland en 2022, je pense que ça peut être embêtant.
Même le Henderson Kroos, hein.
Oui, oui, non, mais c'est pour ça que théoriquement, c'est même un match qu'il devrait même pas y avoir débat. Et j'étais très content de voir City sortir, parce que je pense quand même que Liverpool a plus de chances de battre le Real que City. Sur un match, en tout cas. Heureusement que c'est pas un aller-retour, heureusement que c'est pas au Bernabeu. Mais il y a ce côté mystique qui te fait dire que Modric et Benzema vont sortir deux matchs immenses et que ça va gagner. Après, il y a le côté vengeance de 2018 où Ramos avait quand même cassé la clavicule de Salah pour le sortir du terrain. Ça peut être un truc qui motive un peu les mecs de Liverpool.
Après, je pense que dans tous les cas, t'es motivé sur une finale.
Oui, non, mais tu vois, un truc en plus qui peut leur permettre de, je sais pas, de bouffer le Real dans l'intensité. Parce que c'est dans l'intensité, si Liverpool arrive à sortir son intensité max sur 20-30 minutes, je pense que le Real peut passer un très très mauvais moment quand même.
Après, Flo, si, alors c'est pas là-dessus que tu partirais, mais hormis la variable Courtois, hein, t'as un Alexander-Arnold Vinicius. Alors du coup, tu pourras pas forcément le jouer de la tête, ce qui pouvait parfois être le cas certains adversaires, mais tu peux le jouer dans la profondeur.
Oui.
Donc, il y aura Konaté en couverture, par contre.
C'est vrai que... Ouais, mais Konaté face à un Vinicius lancé, je sais pas trop comment ça peut se passer pour lui, pour le coup.
Parce que là, Vinicius, elle est déjà plus vite que Walker. Alors Walker est en reprise, mais sans ballon, je trouvais que Vinicius était légèrement plus rapide, donc Konaté va extrêmement vite. Mais si même Walker le gagne pas ces duels-là, il faut que Konaté parte avec un mètre d'avance quand même.
C'est pour ça que je confirme, enfin je pense que comme Flo qui mettra Henderson, rien que pour couvrir Arnold, et même s'il faut un moment chicoter Vinicius ou prendre un carton jaune pour le couper, je pense qu'il sera dans cette zone-là.
Bah, des deux côtés, voilà, Diaz Carvajal et Vinicius Arnold, t'as quand même deux clés intéressantes. Et après c'est vrai que au milieu, le choix du milieu de Klopp donnera peut-être une idée du rapport de force entre les deux équipes. Et puis on verra aussi l'apport des bancs, parce que autant Liverpool comme le Real, à chaque fois le coaching a quand même plutôt bien bien tourné en la faveur des deux coachs.
Sachant que moi, comme Raphaël, je deviens un hater de Hugo Jota, et donc du coup, j'ai tendance à penser que tu fais rapidement du coaching gagnant quand tu le sors de n'importe quel autre élément offensif. Je sens que Firmino devrait revenir, donc ça fera en plus une variable supplémentaire pour l'attaque.
Ouais, mais je pense que ce sera Diaz, Mané, Salah.
Je pense aussi, mais bon, c'est
le trio. Mais Jota, le problème, c'est qu'il est très très bon statistiquement, il marque plein de buts, mais dès qu'il faut faire autre chose que marquer des buts, c'est compliqué.
Tu parles de Milik là ?
Non, je parle de.
Et sans que Jota n'en marque pas assez.
Jota est plus mobile et défend quand même, donc ça fait deux points en plus.
Mais Jota n'en marque pas assez pour que tu te dises, bon, au moins il met ses buts quoi. Ça, il en marque, hein. Mais je veux dire, 15 buts à Liverpool, bon, c'est pas comme s'il en marquait 30 quoi. Où tu te dis, bon, ok quoi, il fait que ça, mais le mec marque sur toutes ses occasions, c'est-à-dire il marque un peu plus que les autres, mais c'est pas
dans le
plus.
Un joueur de rotation, c'est pas mal quand même.
Qu'est-ce qu'on a rajouté, messieurs? On boucle l'épisode là-dessus ou vous avez un dernier petit mot à dire sur ces demi et sur la finale à venir?
Non, je pense qu'on peut boucler. Parcours le Ligue des Champions quand même un peu particulière parce que les deux équipes, les deux finalistes ont connu des épopées très différentes. Et puis le but à l'extérieur n'a pas empêché de vivre une super édition de Ligue des Champions.
D'ailleurs,
et je trouve.
Vas-y.
Ouais, dis-moi, Christophe. Non, j'allais dire, je trouve qu'on a trouvé cette année un équilibre plutôt intéressant en termes de Coupe d'Europe, avec les équipes reversées dans la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Donc 3 x 32, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Je trouve qu'on est sur une formule vraiment qui marche, qui intéresse quelle que soit la compétition. T'as des représentants de tous les pays un peu dans les trois compétitions. Et je sais pas comment ils vont réorganiser ça quand il y aura la Ligue des Champions à 36, là. Est-ce que ça va pas casser le truc? Faudrait que je relise comment ça va fonctionner, mais je trouve ça dommage. Je pense qu'on va avoir 2-3 saisons d'une organisation vraiment idéale, et que ça va être gâché par les besoins d'inclure plus d'équipes, et notamment les équipes au prestige qui vont intégrer les prochaines éditions de Ligue des Champions. Là, je trouvais que le 3x32, C1, C2, C3, qu'on devrait renommer d'ailleurs, était très bien pour l'Europe et pour le foot.
À noter que, comme d'habitude, les phases de poule de Ligue des Champions ne veulent pas dire grand-chose. On pense notamment au Sheriff Tiraspol qui avait battu le Real en poule. On était obligé d'en parler sur le moment et on tirait des. Alors, je sais pas si on tirait des grands enseignements, hein, mais on était obligé de parler de ce qui se passait et au final, on se rend compte que c'est déjà difficilement palpable sur 180 minutes et sur le rapport de force sur les semaines précédant un match. C'est déjà difficile à analyser. Alors, quand on rebascule et qu'on repense à ce qui s'est passé en octobre, en novembre, ça paraît vraiment très loin. Florent, quand est-ce qu'on se retrouve pour le prochain épisode? Et est-ce que tu as déjà une idée de ce dont on va parler ou pas? Je te mets sur le grill, sachant qu'on n'en a absolument pas à discuter entre nous.
Pas du tout. Donc,
Ce sera la semaine prochaine,
ce sera de l'impro.
La Ligue 1!
Sans doute de la Ligue 1 avant les deux dernières journées. Je pense que ça peut être intéressant de faire un dernier point. On verra de quoi on parle exactement, mais... Je pense qu'avant les deux derniers multiplex, ouais, parler un petit peu de Ligue 1, ça peut être bien.
Ouais, et puis parler de Bordeaux permettra d'inclure une touche humoristique dans un podcast qui se prend parfois très au sérieux.
Sachant quand même que Bordeaux peut être descendu dès la prochaine journée.
Non.
Pourquoi non?
Ah si, oui, pardon, si.
Bah, si Saint-Étienne gagne et Bordeaux perd, t'es à 7 points, si Saint-Étienne gagne.
Alors que Florent regarde le classement quasiment tous les jours et nous envoie toujours des points et tout.
Mais je crois que mais dans ma tête, Saint-Étienne gagne pas ce week-end. Donc c'est
ils vont à Nice, donc ça dure.
Ah, s'ils doivent taper une équipe du haut de tableau, je vois que Nice, pour le coup. Mais bon.
Je sens bien le 0-0 à la mi-temps.
Oui, par exemple. Mais on a fini avec les paris, Christophe.
Absolument. C'est bien pour ça que je le donne, puisqu'il n'y a rien à gagner ou à perdre. Merci, messieurs, pour ce bel épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour parler sans doute de Ligue 1, dans tous les cas, pour parler de foot dans la joie et la bonne humeur. À bientôt.
Ciao. Salut.
Cordialement. We'll be right back.